Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 12. Je reçois Pierre, que j'ai rencontré il y a presque 10 ans aux Philippines, quand nous travaillions ensemble au lancement du site e-commerce Lazada. Il s'est lancé en tant qu'entrepreneur de l'économie sociale et solidaire l'année dernière avec le projet Zest, la bouteille responsable garantie à vie. On parle de ce changement de voie et de son implication à la fois écologique et pour la réinsertion professionnelle. Bonne écoute! Bonjour Pierre!
Bonjour!
Pierre, tu as 33 ans et tu es diplômé de l'ESCP. On s'est rencontré il y a presque 10 ans aux Philippines lorsqu'on travaillait ensemble au lancement du site e-commerce Lazada. Après cette expérience, tu as continué à travailler dans le digital pendant quelques temps. Et puis, il y a un an et demi, tu as lancé Zest, la bouteille responsable garantie à vie. Pourquoi ce changement? Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours?
Oui, alors déjà, merci beaucoup hein, me recevoir. Rapidement, sur mon parcours, donc effectivement, ouais, j'ai commencé en sortant d'école de commerce à travailler chez Rocket Internet, aux Philippines directement, là où on s'est rencontrés. Après ça, j'ai bossé un peu chez un éditeur de logiciels pendant deux ans et demi, trois ans, qui était en France, qui était spécialisé dans les réseaux sociaux, avec toujours cet intérêt pour le digital que j'avais, où je m'occupais du commercial et du marketing. Et ensuite, j'ai travaillé en grande distribution chez Carrefour pour lancer des projets e-commerce alimentaire pour une entité du groupe Carrefour qui s'appelait maintenant, parce qu'elle a changé de nom, WooShop, et qui est devenue Carrefour Livré chez vous. Et du coup, à la suite de ça, dans le e-commerce alimentaire, j'étais pas mal confronté à la problématique des emballages et du suremballage. Je voyais que je commençais à changer peu à peu mes pratiques au niveau personnel, et donc il y avait vraiment une différence entre ce que je faisais au boulot et ce que je faisais à la maison, parce que à la maison je passais sur du déodorant solide, du shampoing solide, j'essayais de limiter les emballages à usage unique, etc. Et au boulot on envoyait voilà des tonnes de colis suremballés, et donc j'ai décidé de quitter Carrefour et de commencer à travailler sur un projet plus responsable et de me rapprocher aussi du design industriel, parce que voilà, j'apprécie beaucoup travailler avec des designers, je trouve que c'est hyper intéressant, et j'ai vu que sur les bouteilles isothermes et en particulier les bouteilles en inox, qui avaient assez peu d'engagement des marques françaises sur le plan de la traçabilité des produits, c'est-à-dire comment ils étaient faits. On savait qu'ils étaient tous en Chine, mais c'était peu ou pas indiqué, mais aussi sur la partie design, c'est-à-dire que tous les designs se ressemblaient. Et donc, j'ai décidé de commencer à travailler sur Zest à ce moment-là.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est Zest, et puis on reviendra ouais. Ensuite sur le changement de voie et qu'est-ce qui a provoqué ce changement?
Ouais, alors Zest, c'est une marque de contenants éco-responsable. Le premier produit qu'on a sorti sur Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding en novembre dernier, c'est une bouteille isotherme qu'on dit garantie à vie, pratique et responsable. Donc elle est garantie à vie parce que bah, voilà, c'est un corps un bouchon en inox, et on garantit à vie l'étanchéité et l'isothermie. Elle est pratique parce que la particularité de ce produit, c'est qu'on l'a co-conçu avec une communauté de 500 personnes. Donc, ces 500 personnes, on les a, entre guillemets, recrutées via un sondage au tout début de l'aventure, un sondage qui était diffusé via notamment Facebook, ces personnes ont tout choisi. C'est-à-dire, elles ont choisi le logo, le nom de la marque, les premières formes de bouteilles, etc., jusqu'aux finitions. Et le but, c'était de coller le plus possible à leurs envies. Et enfin, le dernier point responsable, parce que on a une responsabilité qui est à trois niveaux. Le premier, c'est l'aspect local, c'est-à-dire on est la seule marque de bouteilles en inox à relocaliser en France la production. Le deuxième aspect, c'est qu'on travaille avec un chantier d'insertion, donc c'est plus l'inclusion, un chantier d'insertion par le travail sur toute la partie logistique, des commandes. Et le dernier, c'est plus environnemental. Donc, le produit en soi, il est très sain parce qu'il permet d'économiser 90 bouteilles en plastique par habitant et par an. En France, c'est notre consommation. Mais aussi, on soutient une association de préservation des océans qui s'appelle Water Family, qui est située dans le Pays Basque. Et donc, à chaque commande, on reverse 1% du chiffre d'affaires, voilà, de ce qu'on encaisse. Voilà à peu près notre activité.
C'est génial comme projet, mais comment t'es venu l'idée ? Enfin, comment est-ce que t'es passé de Carrefour à Zest ?
Alors, je me suis pas réveillé du tout un matin en me disant il faut absolument que je fasse des gourdes isothermes. Ça a été assez progressif. En sortant chez Carrefour, j'ai tout de suite postulé. C'est-à-dire, j'ai postulé dans différentes structures. Des petites, des moyennes, plus tournées. Alors ça pouvait être dans le digital ou pas d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que, bah voilà, quelle que soit la qualité de l'entreprise que j'avais en face, il y avait deux choses qui me manquaient. C'était de travailler sur un produit à moi, parce que j'avais tourné assez longtemps autour de l'entrepreneuriat, mais aussi continuer à travailler en e-commerce. Et sur un produit qui a du sens. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert, je suivais bien ce qui se passait sur la loi alimentation, ce qui se passait sur le débat des pailles à usage unique, etc., et des plastiques à usage unique. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui manque aujourd'hui sur ce marché ? Qu'est-ce qui m'intéresse profondément ? Et je suis allé chez ma sœur qui habite près de Bordeaux, et j'ai découvert qu'elle avait une collection de gourdes en inox chez elle, qui était toute cabossée pour ses enfants. Et nulle part sur ces gourdes-là, je trouvais la provenance. Et elles se ressemblaient toutes, alors qu'elles étaient de marques différentes. Et donc, je me suis dit, bah, clairement, il y a un souci. Et pourquoi pas commencer à travailler sur ce type de produit.
D'accord. Donc, l'idée de la gourde, t'es vraiment venue comme ça, en allant chez ta sœur, c'était pas par rapport à un produit sur lequel tu avais pu travailler auparavant.
Non.
Et c'était pas, voilà, c'est pas un matin tu te dis, ouais, putain, là, les bouteilles en plastique, c'est plus possible. Il faut changer ça.
J'avais commencé en fait à arrêter ma consommation de bouteilles en plastique de mon côté, mais c'était vraiment sur la partie au niveau personnel, c'est-à-dire ça faisait partie, bah, j'essayais de faire par exemple ma lessive moi-même, on a commencé à faire nos yaourts maison, on a, voilà, ce que je te disais sur le shampoing solide, le déodorant solide, etc. Donc on a commencé à faire de plus en plus gaffe justement aux emballages qu'on utilisait. On a commencé à changer aussi notre manière de consommer des fruits et légumes, aller vers des structures qui permettaient d'être en quasi direct avec le producteur, etc. Donc ça fait partie d'un ensemble de choses, en fait, de modifications de comportement assez progressives que j'ai eu là en courant Carrefour, et en sortant de chez Carrefour, ça s'est amplifié. Et au final, j'ai commencé à être assez obsédé par cette histoire d'utilisation de bouteilles en plastique, en me disant, mais voilà, l'eau de Paris notamment, et l'eau en France est extrêmement, extrêmement contrôlée. Je ne vois pas pourquoi on continue à utiliser des bouteilles en plastique. Sur les produits proposés, je trouve qu'il manque quelque chose, donc il y a vraiment quelque chose à faire de plus peut-être sain ou de plus unique pour les utilisateurs, pour leur permettre de résoudre ce problème, quoi.
Et par rapport à ta prise de conscience personnelle, comment t'expliques que finalement, bah, t'es changé ton comportement petit à petit, que t'es évolué ? Parce que, bon, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, quand on était ensemble aux Philippines, on n'était pas trop des écolos dans l'âme, tous les deux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ?
Après, je pense qu'il y a une de manière assez progressive, il y a une sensibilisation qui s'est mise en place au niveau français, par exemple, depuis un an et demi, deux ans, si on regarde un peu toutes les émissions télé, radio, etc., qui ont été dédiées notamment au plastique et à l'usage unique, c'est assez massif. Ça a commencé par Élise Lucet sur France 2 sur les bouteilles en plastique, et ça s'est amplifié après. Donc il y a eu vraiment une communication assez grandissante. Moi, les problèmes, j'en avais assez conscience, mais j'y agissais pas forcément. Et les modèles, ils sont plus venus du côté familial, où je voyais que mes sœurs changeaient complètement leurs pratiques, essayaient des choses qui sont nouvelles, mais pas tant nouvelles que ça, c'est-à-dire par exemple des couches réutilisables, ce genre de choses. Et je voyais que, ben, en fait, on pouvait changer nos pratiques, préserver notamment en partie les océans, tout en consommant ben, mieux. En fait, donc ça a été vraiment par la sensibilisation et par l'exemple de mon cercle familial proche que j'ai pris conscience et que j'ai commencé peu à peu à switcher. Et j'ai vu qu'en fait, consommer plus écolo, c'était pas chiant. C'était pas dire, c'est souvent l'image qu'on en a, c'est consommer des produits plus écologique, c'est pas forcément quelque chose qui est qui vous ramène vers le bas en fait. C'est-à-dire c'est il y a des produits écolophones, les produits écologiques sont dans l'alimentaire souvent beaucoup plus de goût. Et en fait, bah, du coup à partir de ces constats-là, j'ai commencé à modifier moi mes comportements.
Ok, ouais, c'était très clair. Et si on revient un petit peu plus sur le moment où tu as décidé bah, de partir de Carrefour, de changer, de faire autre chose, pourquoi est-ce que tu as pris cette décision? Qu'est-ce qui t'embêtait? Qu'est-ce que tu ne retrouvais pas forcément à ce moment-là dans ton job? Et pourquoi partir sans rien avoir derrière? Quel a été un peu ton raisonnement et tes actions à ce moment-là?
Alors, mon raisonnement, il était, alors déjà, chez Carrefour, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets très intéressants, vraiment, en quasi complète autonomie. Donc ça, c'était vraiment, vraiment top. Ce qui m'a décidé de partir, c'était que ça faisait depuis la fin de l'école de commerce, donc j'ai fini mon école de commerce en 2011, que je tournais autour de l'entrepreneuriat. Que je lançais soit des projets pour d'autres personnes, soit je travaillais dans des toutes petites structures en équipe réduite, avec une dynamique d'entrepreneuriat, et que je me disais que j'étais prêt pour lancer mon projet. Et ce qui s'est fait à la fin de Carrefour, c'est qu'il y a eu une rupture conventionnelle, pour être totalement transparent, qui a été négociée, qui m'a permis aussi de lancer mon projet. Je me suis dit c'est le moment pour moi de travailler sur quelque chose qui a vraiment du sens pour moi, de travailler, de faire l'entrepreneuriat et de continuer à travailler un peu en digital. Donc c'est la combinaison de ces trois éléments qui m'ont j'ai cherché pendant quelques mois ce que je pouvais faire. Je suis parti de Carrefour en juin 2018 et j'ai commencé à travailler les prémices de Zest. Ça a été en octobre 2018 et de juin à octobre, j'ai un peu cherché. Voilà, je me suis cherché, j'ai cherché ce que je pouvais faire qui avait du sens pour moi. Donc j'ai postulé, j'ai réfléchi, je suis allé à des conférences, j'ai lu et tout ça, ça m'a décidé peu à peu à me lancer sur quelque chose qui avait beaucoup plus de sens pour moi.
Et c'était hyper rapide en fait, tu as trouvé très très rapidement le projet qui te convenait, tu as eu l'idée de Zest, enfin en à peine quelques mois, enfin 2-3 mois comme tu dis, c'est assez peu commun d'avoir cette idée assez rapidement par rapport, généralement les gens avec qui je parle aussi mûrissent pendant des années ce genre d'idée, ce genre de projet. Toi c'était vraiment arrivé très très rapidement.
Alors, je pense que de manière générale, je suis assez pressé. J'ai fait des séances justement de pendant cet été-là, entre juin et octobre, des séances de coaching. Donc, on parle pas souvent de ce genre de choses, mais des séances de coaching pour savoir un peu comment me réorienter professionnellement. Et quand je dis souvent, je suis assez pressé, c'est que dans ces séances de coaching, j'avais dit voilà, moi je veux pas faire plus de 3 séances pour commencer à essayer de trouver mon nouveau projet professionnel ou réactiver certaines envies au niveau professionnel. Et donc je suis sorti de là en me disant voilà, déjà ce que je vais faire, c'est tout de suite commencer à travailler sur un projet de bouteille et essayer de le valider. Voir si je peux vivre de ça. Et voir si c'est un intérêt pour les gens, parce que j'avais cette idée suite à la visite chez ma sœur là à Bordeaux, et donc c'est allé après. Alors on peut considérer que c'est assez vite, mais après il y a eu une phase de développement produit qui a été assez longue, une recherche industrielle assez longue, mais en tout cas ça s'est enclenché assez rapidement vers ce projet là, vers Zest.
Ok, donc c'était en fait, tu as décidé de dire, ok, je vais partir d'abord sur un projet qui me paraît pas mal, et puis après on verra ce qui naît de ça,
Ouais.
mais c'était vraiment une décision prise.
Ouais. La décision, c'était d'explorer les possibilités de ce projet. C'est-à-dire, est-ce que ça me sentait que ça m'intéressait beaucoup? Est-ce que mon intérêt était grandissant? Est-ce que il y avait aussi un marché parce qu'il faut pouvoir vivre? Et est-ce que j'allais pouvoir me payer à terme un jour avec ces bouteilles? Et est-ce que j'apportais aussi quelque chose de différent? Parce que si c'était pour faire, par exemple, du dropshipping, donc qui consiste à acheter sur Alibaba et revendre des bouteilles avec le même design que tout le monde, des bouteilles de livres de droit juste gravées différemment, sans contrôler les manières dont c'est produit, ça m'intéressait pas du tout. Donc, je voulais vraiment un projet avec un sens et une transparence forte.
Ok. Et je reviens sur les séances de coaching dont
Ouais.
tu parlais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ces séances-là? Comment est-ce que ça s'est déroulé? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Alors, j'ai décidé de faire ces séances-là parce que du coup, moi, en sortant de chez Carrefour, je pense que c'est lié aussi à la formation qu'on a pu avoir. Mon angoisse, c'était de ne pas avoir un nouveau projet ou un nouveau job tout de suite. Donc, 3 jours après être sorti de chez Carrefour, je passais déjà des entretiens. Et j'étais en fait, je pense, assez fatigué de l'expérience, du travail qui avait été fait les derniers mois avant que je parte. Et j'ai pas pris de temps en fait pour réfléchir à vraiment ce que je voulais faire. Je me disais, bon, ben voilà ce que je sais faire. Il y a forcément des entreprises qui cherchent ce type de. Il y a peut-être des entreprises qui recherchent ce type de compétences. Je vois quelques jobs passer, je vais postuler. Le coaching, c'est un peu une histoire de famille parce que ma mère est coach et mon oncle aussi. Et du coup, c'est quelque chose auquel j'ai été un peu sensibilisé à partir de l'adolescence. Pour moi, c'est la première fois que je faisais du coaching pour un projet professionnel ou pour une orientation professionnelle. Et les séances, c'est assez simple, hein. On vous fait accoucher de vos besoins et désirs, sur le plan professionnel. Et donc, tout se mêle un peu, le perso, le pro, et c'est du ping-pong avec le coach. Et qui donne pas de le coach donne pas de réponse. Les réponses on les trouve soi-même, et c'est des séances de je sais plus combien de temps ça a duré. Ça a duré 1 heure et demie, je pense, quelque chose comme ça. Et donc j'ai fait 3 séances avec ce coach, qui a l'habitude plus de coacher des personnes qui sont plus, enfin ça change maintenant, mais avec la quête de sens plus de notre génération. Mais avant c'était plus des personnes qui avaient la cinquantaine, qui était un peu la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes un peu plus jeunes qui cherchent du sens, quoi. Et moi, j'avais clairement pas forcément choisi depuis l'école de commerce. C'est-à-dire, j'étais allé dans différents jobs dans lequel je trouvais du sens, hein, parce que sinon j'y serais pas allé. Mais là, c'était important pour moi de réfléchir avant de faire ce choix.
Et si j'en reviens maintenant un petit peu à aujourd'hui, donc tu as lancé Zest, tu étais tout seul, c'est toi qui as eu l'idée, et aujourd'hui finalement tu t'es associé avec quelqu'un, comment ça se passe? Il y a une équipe?
Alors, du coup, effectivement, c'est un projet que j'ai lancé seul. Le gros avantage d'avoir pu avoir accès à cette communauté-là de 500 personnes qui ont donné leur avis sur le projet, c'est que j'ai pu soumettre mes idées et avoir des retours très rapides et très francs, en fait, de la part de ces personnes, un peu surtout. Donc, ça a été un peu mon cofondateur. À moi. Et après, je me suis entouré de freelance, notamment sur la partie design industriel. Donc aujourd'hui, le design industriel a été fait par un couple de designers français qui s'appellent Christopher Santer et Clara Rivière. Je me suis entouré de freelance pour les choses que j'arrivais pas à faire moi-même. Du coup, effectivement, là aujourd'hui se pose la question de l'association, peut-être avec, une personne, mais on en saura plus peut-être dans les prochains mois. Et après, sinon, il y a des personnes pour des durées assez courtes, donc en stage notamment, qui ont rejoint le projet à différentes étapes. Mais globalement, c'est un projet que j'ai porté seul. Le but, c'est cette année justement de changer ça et de faire venir et monter des gens sur le projet pour m'aider sur plein d'aspects différents, que ce soit au niveau marketing, au niveau prod, au niveau logistique. Parce que quand on est plusieurs, on va quand même 10 fois plus vite. Donc voilà, c'est l'ambition de cette année.
Tu as parlé un petit peu de ton entourage. Quelle a été leur réaction? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand tu as quitté Carrefour et tu t'es dit, ça y est, maintenant je me lance dans l'aventure entrepreneuriale et notamment pour travailler sur lutter contre le plastique à usage unique?
Alors, j'ai un entourage qui est très bienveillant. Mes proches sont très, très bienveillants. Et l'autre particularité, en plus de ça, c'est que dans le cercle familial, il y a pas mal d'entrepreneurs. Ma mère est entrepreneur, mes deux oncles aussi, mon grand-père. Donc, il y a un pan de la famille, en fait, ma grand-mère aussi, où il y a eu énormément de... il y a eu pas mal d'entreprises qui ont été créées. Et donc, c'était pas forcément pour eux, c'est pas forcément une surprise. Et ils ont vu aussi que je tournais un peu autour. Donc, pas mal de motivation transmise, de bienveillance. Donc, vraiment hyper positif et beaucoup de soutien. Sur l'ensemble du projet. Globalement, il n'y a pas eu de réaction, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Parce que je pense que ces questions, on se les pose aussi soi-même. Donc, quand on a un cercle autour qui en plus dit ça, ça doit être compliqué. Et du côté de ma femme, Clara, il y a eu un soutien énorme. Il y a vraiment, vraiment un gros soutien.
Par rapport à Zest, tu as aussi parlé de réinsertion professionnelle. Ouais. On a un petit peu évoqué la partie écologique de l'entreprise. Pourquoi est-ce que aussi la réinsertion, c'est un sujet qui te tient à cœur? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller dans ce domaine-là aussi?
Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense qu'il y a des énormément de perspectives d'emploi à offrir à des personnes qui sont blessées sur leur lieu de travail, donc des blessures physiques, qui ont été éloignées du monde du travail pendant hyper longtemps. Il y a un groupe qui fait ça extrêmement bien, qui s'appelle le groupe Ares, dont je suis fan depuis pas mal de temps, et notamment sur la partie logistique, ils permettent à justement ces personnes qui étaient éloignées du monde du travail de retrouver pied. Et j'ai trouvé que le message et le projet étaient très beau, et que j'avais envie en fait d'avoir un impact sur le côté, un impact positif sur le côté social. Donc l'impact positif, il peut être bien sûr sur le contrôle des moyens de production. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la base, c'est-à-dire produire de manière éthique et sensée. Mais il peut aussi être tout au long de la chaîne. J'ai commencé par la production et la logistique, mais pourquoi pas étendre, j'ai pas encore les clés pour ça, mais pourquoi pas étendre à terme à d'autres aspects de l'entreprise. Mais pour l'instant, je suis très content de ce partenariat avec le groupe Ares, parce que pour moi, c'est un vrai engagement. Et eux ont accepté de prendre de leur entrepôt un petit poussé et de gérer la préparation des commandes. Donc c'est vraiment top, et je sais que c'est un impact hyper positif et hyper concret. Donc je suis fan, moi, de ces impacts concrets, de pouvoir parler aux équipes, de voir ce qui se passe sur le terrain et de voir que l'entreprise, c'est pas du flan et des effets d'annonce. On a vraiment, les commandes, elles arrivent vraiment chez eux. Il y a vraiment des personnes en réinsertion professionnelle qui travaillent chez eux, et je suis très fier et très content de ça.
Si on parle un petit peu d'avenir et des perspectives, toi au niveau personnel et aussi avec Zest, le futur, ça ressemble à quoi pour toi? Comment est-ce que tu vois l'avenir dans les prochains mois, prochaines années?
Alors, le futur, j'ai commencé sur la partie personnelle. Donc moi, j'ai envie d'avoir une petite fille. Donc le futur, c'est ça change un peu les perspectives. Et du coup, c'est une de mes priorités vraiment. Cette petite fille qui s'appelle Pia. Et du côté professionnel, avec Zest, le but c'est de faire grandir la marque. En travaillant avec des partenaires distributeurs, en proposant de nouveaux produits avec toujours les mêmes engagements au niveau responsabilité et au niveau éthique. Et du coup, vraiment, c'est de faire de ce projet qui a été validé sur Ulule par des contributeurs une entreprise pérenne, durable, avec une éthique vraiment forte. Donc cette année, concrètement, ça a passé par des recrutements, par une extension de gamme en termes de produits et par d'autres projets que je garde pour moi pour l'instant.
D'accord. Tu parles de Ulule depuis plusieurs fois. Pourquoi est-ce que tu as décidé de passer par cette plateforme, de faire du crowdfunding pour lancer le projet ?
Alors, pour plusieurs raisons. Je pense que la raison principale, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer les équipes Ulule sur le choix hein, vraiment de la plateforme, rencontrer les équipes Ulule et j'ai eu un très bon fit avec la personne qui s'est occupée de qui m'a aidé lors de la campagne, qui est la chargée de compte Ulule que j'ai eue. Et après, pourquoi une campagne de crowdfunding ? Parce que sur ce type de produit en métal ou en inox, on a il y a la particularité qu'il y a des moules industriels qui coûtent extrêmement cher. Donc, on doit investir dans les outils industriels et je ne pouvais pas à la fois financer ces outils industriels et financer la production. Toute l'histoire voilà, de la marque et de l'entreprise s'est faite autour du collaboratif, de demander leur avis aux utilisateurs. Et je pense que Ulule, c'était une belle étape pour justement valider le projet. C'est-à-dire permettre aux contributeurs, ceux qui ont guidé un peu toute la démarche, de précommander leur bouteille. Et de faire ce projet le leur quoi. Et donc le choix s'est porté vers Ulule avec le fit, mais aussi avec leur accompagnement qui est top sur les projets impact, ils se renforcent depuis de nombreuses années sur ça, et ils ont vraiment une expertise sur les projets éthiques. On le voit notamment dans la cosmétique, enfin dans pas mal de secteurs différents où ils accompagnent très bien les projets. Et donc c'était essentiel pour moi de me lancer comme ça. Donc voilà, c'était une belle vitrine pour moi.
Si maintenant on peut rentrer dans la DeLorean et faire un petit saut dans le passé, oui. À l'époque où avant Roquette, avant Mani, et si tu pouvais te parler, te délivrer un message ou un conseil, qu'est-ce que tu te dirais ?
Je me dirais test. Des choses que j'ai plus ou moins faites, hein, mais teste toutes les expériences professionnelles possibles pour trouver ce que tu as envie de faire. Et je pense que ça a été plus ou moins le cas, hein, dès le début de mes études en école de commerce. Alors j'ai suivi une voie classique avant, hein, avec pas forcément des choix très, très poussés, c'est-à-dire on est au lycée, ça se passe bien, on rentre en classe préparatoire, ça se passe plutôt bien et on rentre dans une école de commerce. Et donc ça, il n'y a pas forcément des choix très, très forts. En revanche, après, à partir du moment où j'ai fait mes premiers stages, premières expériences professionnelles, j'ai essayé un peu j'ai pas trop pensé à la cohérence du CV, j'ai plus pensé à qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc c'est pour ça, j'ai testé en publicité, en finance, en stratégie, en e-commerce, en commercial, pas mal de choses différentes. Et je pense que je me dirais, fonce et teste différentes voies pour trouver celle qui te convient le mieux.
Et si tu pouvais maintenant délivrer un message ou donner des conseils, soit à des gens, soit des étudiants qui se posent des questions par rapport à ce qu'ils veulent faire, ou soit des gens qui sont en poste et qui voudraient faire partie de la transition écologique et solidaire, enfin en tout cas qui se posent la question, qu'est-ce que tu voudrais leur dire aussi ?
Alors, sur la partie des personnes qui sont en poste, qui veulent faire partie de la transition écologique et solidaire, soit leur travail est compatible avec leurs valeurs, avec leurs nouvelles envies, avec le fait de vouloir s'impliquer, que ce soit à travers les impacts de leur entreprise ou le fait que l'entreprise ait des impacts plus ou moins neutres, mais ça j'y crois un peu moins. Et il y a plein de moyens de s'impliquer sur le plan associatif notamment. Et s'il y a une perte de sens liée à cette transition écologique, essayer dans la mesure du possible de trouver un travail qui concilie un peu plus ça. C'est pas forcément évident parce que tout le monde n'a pas le loisir de changer de travail directement. Il y a des contraintes familiales, des contraintes de prêt, et sur les étudiants, c'est plus essayer d'aller voir toutes les entreprises qui se montent dans ce secteur-là. Il y a des choses vraiment magnifiques qui se montent actuellement. Il y a aussi du switch de la part de grosses entreprises, des switches plus ou moins réussis, mais il y a énormément de choses à faire dans ce secteur, énormément de conférences, énormément de lectures, et donc se renseigner pour justement essayer de tester dans différentes entreprises ce qui pourrait leur plaire. Il y a plein de types d'entreprises qui ont un lien avec l'économie sociale et solidaire ou l'écologie. Et donc il y a énormément de postes, énormément de choses à faire, que ce soit du côté digital ou des côtés plus traditionnels du commercial. Enfin, il y a tout à faire. Donc, se renseigner et aller voir les porteurs de projets ou les entreprises, elles sont ravies de discuter.
Tu parles de lecture. Est-ce que tu aurais des recommandations dans ce domaine-là ?
Lecture, moi je suis très lecture, c'est vraiment je déconnecte au maximum, donc mes lectures elles sont pas forcément top. Je lis beaucoup de policiers ou de choses comme ça. En revanche, je suis très documentaire et il y avait eu à un moment le Greenpeace Film Festival qui était en ligne où il y avait la possibilité de retrouver un certain nombre de documentaires qui était magnifique avec différentes thématiques. Il y en avait un sur la montée des eaux qui est très beau, que j'ai adoré. Je vais te retrouver le nom parce que j'ai un trou, c'était un documentaire justement d'habitants d'une île qui se retrouvent confrontés de manière mais récurrente à cette montée des eaux et aux problématiques que ça engendre par rapport à leurs conditions de vie, et donc on assiste vraiment aux premiers réfugiés, enfin les c'est des vrais réfugiés climatiques qui sont obligés de migrer vers la Nouvelle-Zélande, et ce documentaire j'ai trouvé magnifique, avec un président justement de ce pays qui prend la parole publiquement de manière répétée, mais il voit que rien ne change. Et je te retrouverai le nom, j'ai un trou de mémoire, mais c'est vraiment le documentaire qui m'a le plus marqué là récemment.
Ok, de toute façon je l'ajouterai du coup dans la description de l'épisode. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais dire, que tu voudrais ajouter ?
Non, je pense que c'est à peu près tout. Je pense que sur la partie peut-être un message sur la partie entrepreneuriat et sur l'économie sociale et solidaire. Je trouve qu'on le dit pas souvent, mais enfin de plus en plus, mais la France c'est quand même un pays qui est incroyable pour entreprendre. Les structures qui accompagnent les entreprises naissantes se multiplient de plus en plus, que ce soit les incubateurs, il y a des aides incroyables, des aides financières, des aides du mentorat de partout. Et je trouve que c'est une richesse qu'on a. J'avais pas conscience de ça avant de me lancer. Et la bienveillance et l'aide du milieu couplée au support de l'État français à travers les différentes structures mises en place, c'est vraiment précieux. Et ça, je pense qu'il va y avoir pas mal de personnes qui vont se lancer encore plus dans les prochains mois, prochaines années.
Ouais, je confirme pour en avoir bénéficié aussi auparavant, et c'est effectivement quelque chose qui n'est pas très connu, mais la France est un pays très beau pour entreprendre.
Ouais. On dit souvent que au final, de manière assez provocante, hein, mais que Pôle emploi est le premier business angel de France, et clairement c'est vrai. C'est-à-dire que le soutien apporté aux créateurs d'entreprise pour maintenir un niveau de vie voilà, un peu inférieur, mais ce qu'ils avaient avant, mais pouvoir continuer à vivre tout en se dédiant à un projet, investissant leur argent personnel dedans et pouvoir monter quelque chose est juste énorme. Et monter un projet, ça prend un temps, quel que soit le secteur, ça prend un temps assez long. Je connais très peu de projets qui se sont montés en moins d'un an. Et du coup, ce soutien, il est juste énorme. Juste énorme.
Pierre, on arrive au bout de cet entretien. Je te remercie beaucoup pour ton temps et je te souhaite tout le meilleur pour toi, pour ta famille et pour Zest. Et je te dis à bientôt.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Salut JP.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez !